Merci. Alors, je dois préciser au départ que j'ai d'abord enseigné la finance à Dauphine, d'ailleurs avec Pierre Ponceau et Michel Levasseur. Et puis, j'ai dérivé vers la comptabilité. Donc, je vais vous parler de comptabilité. Alors, je précise aussi une chose, c'est que ce que je vais vous dire a été co-construit avec Alexandre Rimbaud. J'espère qu'il aura quelques minutes pour, comme c'était prévu, pour exprimer ses opinions sur ce que je vais dire. Alors, je vais procéder en 10 thèses. Première thèse, qui est apparemment une thèse banale, dans toute entreprise, on a besoin de capital naturel, de capital humain et de capital financier. On a redécouvert récemment le capital naturel au travers de l'anthropocèse et la crise qu'on connaît. Deuxième thèse, qui est implicite, généralement et non visible. Il y a une inégalité de sort entre les trois capitaux en comptabilité actuelle. Seul le capital financier est strictement conservé. Il est considéré d'ailleurs comme une dette au passif du bilan, je vais y revenir. Les deux autres capitaux, ce sont des actifs, hein, ce sont des moyens, des ressources à utiliser, simplement. Et cette terrible loi comptable, hein, parce qu'elle est terrible, est inscrite déjà dans les premiers bilans des années 1400 et 1300-1400. Et elle demeure aujourd'hui. Alors, d'ailleurs, j'avais prévu de présenter un slide avec le bilan d'Attigny en 1399. On voit bien au passif, c'est un capital d'Attigny, profit d'Attigny, hein, c'est pas un actif. Bon. Et par contre, dans les stocks, il y a le coût du travail, évidemment. Il y avait une esclave. Bon, ça a disparu, heureusement, quand même. La troisième thèse, il faut souligner qu'on a, chez les comptables, un concept de capital tout à fait particulier. Encore une fois, ce n'est pas un actif ni une ressource, contrairement à ce que tous les économistes vont croire, y compris Marx. Mais c'est une dette de l'entreprise envers le capitaliste, hein, et d'ailleurs, creditori, hein, chez Dattini. Et il y a un extraordinaire dédoublement de personnalité du capitaliste qui se doit à lui-même. Donc la définition d'un capital, c'est une chose qui doit être systématiquement conservée et pleinement remboursée. Alors, thèse numéro 3, il n'y a que ce système qui permet une conservation efficace du capital. Lorsqu'on fonde une entreprise, vous avez du cash à l'actif et vous avez capital au passif. Donc c'est un système génial, je suis comptable, hein, qui permet à la fois de mesurer les usures à l'actif et en même temps la conservation du capital et l'accumulation, bien sûr. Mais avant d'accumuler, il faut conserver. Donc voilà cette troisième thèse qui n'a pas changé malgré les progrès technologiques, hein, on demeure toujours avec elle. Thèse numéro 4. Donc le capital financier est non seulement conservé, mais il donne le pouvoir dès la Podesta à Florence, en 1300-1400, il y a des répressions de grévistes, hein, et il y a même pendaison des meneurs. Hein. Heureusement, on n'en est plus là, bon, quand même. Les deux autres capitaux sont complètement dominés dans cette approche. Alors, thèse numéro 5, excusez-moi, parce que c'est un système puissant, inique, immoral, et on peut dire surtout, à la limite, anti-économique. La force de ce système comptable, c'est qu'il régule les marchés, il est au-dessus des marchés. Il faut bien comprendre que les marchés fonctionnent dans le cadre de ce système, donc il les domine. Et Smith a vu la main invisible des marchés, mais il n'a jamais vu la main visible des comptables. C'est un peu dommage. Donc, vous avez au-dessus des marchés un concept spécifique de coût. C'est ça qui est très, très important et que les économistes ne voient guère. Donc, un système anti-économique, un système qui est à la racine de tous les problèmes actuels, mais qui est jalousement protégé. Il n'y a pas de dérégulation, hein, de ce système. Au contraire, de plus en plus de régulation. Parce qu'on dit qu'il y a une dérégulation. Non, c'est pas vrai. La dérégulation comptable n'existe pas. Il faut bien comprendre ça. On veut déréguler le reste, mais pas la comptabilité. Et donc, vous avez des États qui appuient de ce système. Et ces États ont une puissance, parce qu'ils gardent la mainmise sur cette régulation. Thèse numéro 6. Un système qui est protégé par un droit international. Il y a un vrai droit international qui harmonise toute cette comptabilité. On peut prétendre que c'est le seul vrai droit international à l'époque actuelle. Il s'agit d'une loi dure, hein, ce n'est pas de la soft law de la CSR, pas du tout. Ça, c'est bon pour le capital naturel et le capital humain. Là, c'est très dur. Hein. Et c'est reconnu et sanctionné par tous les États. Donc, vous voyez la différence avec le capital humain, hein, c'est clair. Et c'est reconnu par tous les organismes internationaux. Alors, cette loi est matérialisée concrètement par un code qui s'appelle le code des IFRS. Alors, si vous me permettez, pour que vous me croyez, je vais apporter la preuve. J'ai pris une version light il y a quelques années. Parce que la version, là, mon médecin m'a interdit de, à force de musculo-squelettique. Alors, c'est un code qui est donc beaucoup plus lourd que le fameux code du travail, qui est un ersatz à côté, hein, c'est tout. Et en plus, il est évidemment reconnu par tous les États, et il est extrêmement important. Il est énorme et incompréhensible, hein, sauf par une toute petite élite. Et pourtant, il est adoré par la quasi-totalité des capitalistes. C'est très curieux. Ils aiment quand même des choses qui sont très dures, hein, mais et même hyper complexes. Hein. Ça, c'est. J'ai jamais compris pourquoi il y avait une telle différence avec le code du travail. J'arrive pas à comprendre. Donc voilà. Sous l'influence d'ailleurs des économistes, Fischer, cette comptabilité du code IFRS s'est aggravée. On a brisé le principe des prudences. On est en train de démolir la perspective d'une conservation du capital au niveau de la firme. Je passe, hein, j'ai pas le temps. Thèse 6 pour finir. C'est ce code qui domine le monde. Hein. D'ailleurs, en allemand, Rechnungswesen, Rech, racine Rech, ça renvoie à Rex, le roi. C'est le roi. C'est ce code qui domine le monde. Donc, et pas à l'économie, il ne faut pas croire, pas à la finance. Non, ça, c'est les règles qui s'appliquent à la finance et à l'économie. Il faut bien voir l'importance de ce code. Et c'est celui qu'il faut évidemment changer en priorité, mais il va y avoir de fortes résistances, évidemment. Alors, je voudrais dire que, certes, tout est réglé d'avance. Hein, j'étais membre du Conseil national de la comptabilité et de l'autorité des normes comptables. Il y a un représentant pour les salariés, en tout. Les autres, ce sont des représentants, en gros, sur 15 membres, qui représentent, on peut dire, les grandes entreprises, l'État, bien sûr, qui collabore avec cette, je dirais, captation dont on a parlé, mais tout est organisé pour que, finalement, la voix de ceux qui pourraient s'opposer soit extrêmement minoritaire. Donc ça, il faut bien voir, c'est avec l'appui de l'État qui garde une influence énorme sur ces problèmes. Alors, évidemment, il va falloir changer. La thèse numéro 7, c'est que nous avons besoin d'une nouvelle perspective comptable, économique et humaine, avec de nouveaux axiomes, une nouvelle conception de l'évaluation, et nous proposons donc un modèle qui a fait l'objet d'articles, déjà dans les revues internationales, qui s'appelle le modèle CARE-TVL. CARE, ça veut dire comptabilité adaptée au renouvellement de l'environnement. Alors, il s'agit donc d'avoir... en fait, c'est un retournement, on a utilisé, c'est comme dans les arts martiaux, on retourne l'arme traditionnelle de la comptabilité contre le système financier avec trois capitaux qui vont être conservés, vous avez vu. Donc, de nouveaux actions comptables, au moins trois capitaux doivent être systématiquement protégés. Généralement, les gens sont d'accord avec ça, ils trouvent que c'est logique. Hein. Pourquoi il n'y en a qu'un qui est protégé systématiquement? Et caractère non instrumental de l'être humain, là on peut renvoyer à Kant, au pape François notamment, qui défend à la limite cette optique. Hein. Je suis en correspondance avec lui sur ce problème. Donc ces trois capitaux doivent être évalués en termes de coût de maintien. Hein. On va en reparler. Et ils sont enregistrés en tant que dette au passif du bilan. Et en correspondance, bien sûr, il y a un coût d'usage à l'actif et avec des amortissements de ces trois catégories d'actifs. Alors, je comptais donner un exemple pour le capital humain. Mais en gros, pour le capital humain, on se réfère à l'OIT et le concept de revenu décent. Un budget de revenu décent, qui n'est pas un revenu minimal, hein, rien à voir, qui figure au passif, et en contrepartie, évidemment, un actif humain qui va être amorti, etc. Alors, la même chose pour le capital naturel, hein, on pourrait avoir un budget de fourmis organiques, etc. Et la même chose pour les gaz à effet de serre, il n'est pas question d'un prix du carbone dans cette... Le prix du carbone, c'est un désastre, hein, c'est inefficace. Nous avons une méthode qui permet, par le biais d'un budget de coûts en fonction de la réduction des gaz à effet de serre, on le met au passif, et ça, chaque entreprise a son coût, il n'est pas question d'avoir un prix unique. Ça, c'est une méthode sérieuse, comptable. Alors, là, j'en suis à la thèse... Donc, vous avez un bilan qui est généralement en tranche, hein, c'est un bilan caractéristique de la méthode CARE, avec une tranche capital financier. Indispensable aussi, hein. Capital humain, capital naturel, et les trois sont à conserver. Alors, évidemment, tout ça, ça débouche sur un nouveau concept de profit. Le problème, c'est de changer le concept de profit. c'est pas le profit en tant que tel, c'est un certain profit qui est absolument, je dirais, catastrophique dans notre époque. Alors, il y a trois lignes de dépréciation qui vont figurer dans les charges, hein, qui correspondent à ces trois capitaux, et on débouche sur un vrai full cost, hein, un vrai full cost, un vrai coût, et qui intègre les coûts véritables des deux autres capitaux, et qui, évidemment, modifie le profit. Généralement, ça va être en baisse, hein, mais c'est normal. On a affaire, à l'heure actuelle, à une gigantesque distribution de dividendes fictifs, au détriment de la nature et au détriment du capital humain. Donc, un profit commun, et j'en viens, j'ai presque terminé, vous avez à ce titre, puisqu'il y a trois capitaux passifs, la logique est très simple, hein, à l'heure actuelle, il y a un capital qui a le pouvoir. Il figure dans en droit, capital, donc pouvoir. Et bien là, trois capitaux qui doivent se partager le pouvoir. La solution qui est proposée ici, c'est que les représentants de ces trois capitaux ont un tiers des voix chacun, et ils se distribuent ensuite, non pas en fonction du capital qu'ils apportent, mais un homme ou une femme, une voix, donc un système coopératif, en gros. Voilà l'esquisse, parce que je n'ai pas le temps, de cette nouvelle gouvernance qui devrait s'appliquer à toutes les entreprises, en principe. Alors, je précise d'ailleurs que, à l'heure actuelle, la comptabilité s'applique quasiment à toutes les entreprises. On fait quelques exceptions pour les petites et moyennes entreprises. Mais fondamentalement, le monde entier, à l'heure actuelle, applique, sauf la Corée du Nord, hein, qui résiste encore un peu. Mais grâce à Trump, je pense qu'elle va changer bientôt. Donc, l'ensemble des comptabilités du monde est quasiment identique, hein, sur pour ce qui concerne les comptes consolidés qui sont les plus importants. Voilà, je pense que, pour conclure, il s'agit d'une économie de marché. J'insiste là-dessus. Le problème, c'est que les partis politiques, je ne vais pas les nommer, ont soit abandonné la lutte contre le capitalisme, soit se sont fourvoyés dans des modèles qui sont totalement inopérants. Ici, nous proposons un nouveau modèle qui repose sur une économie de marché, mais avec un profit qui est totalement changé, grâce à la définition nouvelle du capital. Bien sûr, il y a une possibilité d'accumulation, mais une accumulation sous contrainte de ces types de capitaux. Quant à le type de propriété, ce n'est pas très important. Nous sommes d'accord avec Ostrom, c'est la gestion qui est le plus important, et notamment la comptabilité. Voilà. Il y a une bibliographie et il y a un PowerPoint qui sera à votre disposition si ça vous intéresse.
Merci.